Mais qu'est-ce qu'on attend? Avec moi, le clan!
Sire, sire! Des bêtes sauvages vont descendre des montagnes pour envahir la Sicile!
Une invasion de ours.
Massacrez-les!
Qui es-tu?
Professeur des Ambrosis, magicien et ami des ours.
Mais qu'as-tu fait?
Nova Book Box, le jukebox littéraire de Radio Nova.
Minuit, l'heure fatidique. De la plus haute tour, l'esprit d'une vieille horloge complètement défoncée fit retentir 12 ding-ding plaintifs et des nuées de chauves-souris se détachèrent des voûtes branlantes pour s'éparpiller à l'intérieur du château. Au même instant, le roi Léonce, à la tête de son peuple, s'engagea dans les couloirs déserts et reconnut les spectres rugissants et grimaçants. Des draps qui dansent tout seuls? Non. Les ours perdus pendant la bataille, déjà transformés en fantômes, s'étaient liés d'amitié avec les fantômes des hommes. Publié en 1945, classique épique des romans pour enfants, écrit et illustré par Dino Buzzati, l'auteur du Cas ou du désert des Tartares. La fameuse invasion de la Sicile par les ours raconte l'histoire d'un bataillon d'urci des grognons qui, loin de leurs montagnes, s'aventurent en direction des villes et de leurs tentations, fermement décidés à retrouver le fils de leur roi enlevé par de cruels humains. Drôle et sage, ne prenant jamais les marmots pour des imbéciles, cette fable intemporelle sur la corruption et la transmission filiale est adaptée cet automne au cinéma, de manière très belle, tendre et intelligente, par l'Italien Lorenzo Mattotti, 65 ans, qui s'initie son premier long métrage, en salle le 9 octobre, et dans lequel il prête sa voix à un félin croque-mitaine. Dessinateur illustre du New Yorker depuis 1992, peintre et virtuose de la bande dessinée sur plus de 30 albums, on peut citer Feu, Pinocchio, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, Chambre ou Guirlanda, admiré par Lou Reed dont il illustra l'album The Raven d'après Edgar Allan Poe, ce roi du pastel s'apprête à rendre hommage dans cette émission à son maître Dino Buzzati avant de répondre en toute fin de programme à une question de sa consoeur Émile Ferris. Qu'ajouter pour qui m'écoute? Rien, c'est la déroute. Chez les ours, pas de questions, c'est orgueil et satisfaction. Bonjour, c'est Richard Guettet, bienvenue dans la Nova Book Box, le jukebox littéraire de Radio Nova que vous retrouvez chaque dimanche de midi à 1h, tel un oasis de sagesse dans votre brunch. Bonjour Lorenzo Mattotti.
Bonjour à vous.
À quand remonte votre première lecture de la fameuse invasion de la Sicile par les ours, ce classique pour enfants écrit et illustré par votre compatriote Dino Buzzati, c'était en 1945.
Oui, mais en fait, je ne me souviens pas. j'ai aucune idée de quand je l'ai lu. J'étais déjà grand. Je ne l'ai pas lu quand j'étais tout petit.
Adolescent?
Non, je ne vais pas. J'étais plutôt adolescent, tard adolescent. je crois que j'avais presque 18 ans, 19. Mais c'était une période où j'étais fasciné par les lectures de Dino Buzzati en général. Je commençais à lire ses romans.
Lesquels?
Un amour, je crois. Un amour, je ne sais pas. C'est... Et après, toutes les nouvelles. Il y a d'autres contes, comme des fables. Il y a la légende des vieux bois, la forêt ancienne. Je ne sais pas comment c'est traduit.
Vous pouvez les dire en italien, si vous voulez.
Oui, et la légende del Bosco Vecchio. Et en plus, bon, moi je connaissais aussi Buzzati parce qu'il avait fait un livre de bande dessinée.
1971, c'est
oui,
ça?
Oui, exactement, qui s'appelait BD, Poema Fumetti, Poema en bande dessinée. Il est sorti il n'y a pas longtemps chez Actes Sud avec un autre nom, c'est Orphée à l'enfer, je crois, un truc comme ça.
Et je crois savoir que cette bande dessinée...
C'est une bande dessinée poétique.
Que vous avez lue à vers 16 ans.
J'étais plus jeune.
Et qui a ouvert de grandes perspectives pour vous.
Ma, bon, moi, j'adorais déjà la bande dessinée. J'ai copié déjà tous les dessinateurs. J'ai dessiné moi aussi déjà tous mes croquis, tout ça. Mais le fait qu'un grand écrivain très connu, journaliste, peintre, décidé de faire une bande dessinée à cette époque, 71, c'était pas tout à fait normal. Et c'était un sujet en plus pour me dire que la bande dessinée était quelque chose de sérieux, d'important à faire. C'est quelque chose qui m'a poussé encore plus à l'idée de faire de la bande dessinée.
De quoi parlait cette BD?
Ah, c'est comme un poème, c'est un poème de comme c'est un rock star, mais que c'est Orphée, qui s'appelle Orphée, et qui perd sa fiancée,
Eurydice.
Et doit aller certainement à l'enfer, à la recherche. Mais évidemment, c'est un enfer très symbolique, très urbain, très contemporain. Il m'a beaucoup influencé. À cet âge-là, c'est facile à être influencé si on aime quelqu'un. Et je crois que j'ai absorbé beaucoup de sa façon de raconter, beaucoup de cette idée des légendes, des visions, d'imaginaire, de s'inventer des différentes légendes comme s'ils sont existés. Vraiment, je fais beaucoup de références à lui dans certaines de mes histoires, des bandes dessinées, cachées et pas cachées. Et alors, c'était toujours un peu dans mon travail. Et quand je l'ai lu, l'invasion des ours, je crois que c'était une des dernières, parce que c'était un peu difficile à trouver. Et quand je l'ai vraiment lu, j'étais très fasciné par la façon qu'une histoire était racontée par les narrateurs, mais aussi par des petits dessins autour, ajoutés continuellement d'autres variations. C'était en fait un livre illustré qui jouait beaucoup avec l'illustration.
À ce propos, oui, il est rare de souligner, comme vous venez de le faire, que qu'un écrivain aussi talentueux de la stature de Buzzati, ce grand maître pour vous, soit aussi dessinateur et peintre. Et ce roman, pour enfants, s'accompagne, la fameuse invasion de la Sicile par les ours, ce roman s'accompagne d'une cinquantaine à peu près de petits dessins qui sont assez minimalistes et adorables sur les ours et leurs épopées. Quel regard technique vous portez sur ce dessin-là, celui de Buzzati?
Techniquement, on ne peut pas dire que c'est des beaux dessins, surtout les peintures. Il prenait des références à la métaphysique de Chirico, le surréalisme, Dali, d'autres choses. Mais la façon de les faire, c'est très personnel. Et aussi, il y a toujours une atmosphère de mystère derrière. Il arrive toujours à donner un mystère, une vision, évoquer des histoires. Et ça, c'est sa grande force. Et c'est ça qui m'a peut-être enseigné à moi, quand je faisais mes dessins et tout ça. De dire très peu, mais quand tu dis quelque chose, de lui donner toute une tension, une force évocatrice. Et les petits dessins, ils sont très doux et très narratifs. Il n'a pas fait beaucoup de livres avec tous ces petits dessins. J'ai essayé de prendre techniquement beaucoup de choses dans les films, d'idées qui sont seulement
griffonnées, esquissées, quoi.
Esquissées, tout ça. J'ai essayé de les prendre et de les retransformer de façon spectaculaire et forte pour l'écran.
Et regarde-toi, tu voudrais être un homme, tu n'es même pas un ours, incapable de pêcher un saumon.
Qu'est-ce que vous savez des circonstances de l'écriture de ce texte? C'est-à-dire pour qui, pourquoi et comment Dino Buzzati a écrit cette fable animalière?
L'histoire, en fait, il avait commencé à écrire des petites histoires pour ses nièces. Alors, quand il venait, ses nièces, lui commençait à raconter cette histoire des petits ours, qu'ils avaient des aventures. Après, Il Corriere dei Piccoli, que c'est une revue pour la jeunesse, très connue en Italie, depuis des années 20. C'était très important en Italie. Et lui, il travaillait comme journaliste. Il était toujours journaliste au Corriere della Sera et c'était le Corriere dei Piccoli. Ils ont lui demandé d'inventer une histoire pour la jeunesse. Après la guerre, hein, tout de suite après la guerre, c'était presque pas encore. C'était vraiment venait de terminer. Et alors, il a repris cette histoire et l'a réorganisée. Il a fait des grandes images avec des textes en bas. Mais déjà, les textes étaient. Il changeait tout le temps, en fait. Moi, j'ai lu la première version, après j'ai vu une autre version. D'abord, la fameuse invasion s'appelait « La fameuse invasion ».
C'est tout.
Après, il a changé, il a dit « La fameuse invasion de la Maremma », que c'est un peu une région comme la Camargue en France. Il y avait les marais et tout ça. Et après, quand il a décidé de faire les livres, il a mis en Sicile. Sicile, encore plus loin. Lui, il venait de la montagne, c'était son royaume, c'était la montagne, les Alpes, les Dolomites, ils aimaient beaucoup grimper dans les montagnes. Beaucoup de ces histoires, ils se passent dans les montagnes.
Absolument, comme le désert des Tartares.
Et j'imagine que la Sicile, c'était vraiment un lieu de l'imaginaire et de la vision, c'était très loin. Et après... il a décidé de faire les livres et ajouter la deuxième partie. En fait, dans les Corriere dei Piccoli, il n'y avait que la première partie de la conquête. Il y a eu des problèmes parce qu'à un certain moment, l'arrivée des ours... Il avait fait une image de l'arrivée des ours dans la ville et la ville ressemblait trop à Berlin. Il y a beaucoup de monde qui l'a lu. Il y avait évidemment des références plutôt liées à cette période-là, à l'arrivée, le communisme qui a gagné, les grands-ducs qui auraient pu être Hitler, tout cet sous-entendu et des références de cette période politique. Et ils ont lui demandé, ils ont censuré l'image de la ville parce qu'ils pensaient que c'était trop Berlin. Alors ils ont dit, non, écoute, c'est mieux que tu fais une autre ville. Il a changé les dessins.
Ce qu'on pourrait voir, cette révolte, hein, celle d'un peuple naturel des montagnes italiennes contre un tyran autocratique particulièrement cruel, on pourrait le voir comme une métaphore politique, en rappelant que la Sicile, après les îles de Lampedusa et Linosa, je crois, a été la première région à être libérée par les Alliés.
Oui, c'est ça. Ça aussi, peut-être il y a cette lien. Mais lui, il avait dessiné aussi beaucoup d'autres petits dessins sur cette continuation des ours. Quand ils avaient une idée, ils faisaient un dessin. Après, plutôt, il racontait avec les dessins. Je crois que d'abord, il faisait les dessins et après, il s'inventait l'histoire. Que c'est une méthode que moi et mon copain Kramski, on a beaucoup utilisée dans la bande dessinée pour faire notre histoire. Mais moi, quand j'ai lu les livres, en fait, c'était déjà passé depuis 20 ans, la guerre, un peu moins peut-être, et je l'ai lu avec tout un autre regard. Et c'est comme maintenant. Maintenant, on a complètement un autre regard différent sur cette histoire. C'est ça que c'est fascinant quand on trouve des livres qui sont quand même par des sujets universels. Qu'ils ont la capacité de se renouveler tout le temps.
Oui, qui reste une fable pertinente, même 70 ans plus tard, sur la corruption, l'orgueil, l'envie.
Mais oui, il y a beaucoup de sujets dedans. Aussi les rapports avec la nature, trahir la nature, quitter la nature dans les humains, ou se mélanger avec les humains, qu'est-ce que ça rapporte, les vices des humains, la pureté des ours, la naïveté, l'ingénuité qui vient corrompue par le cynisme, le pouvoir, aussi les rapports avec le pouvoir, les rapports entre père et fils. Tous les fils rouges de notre histoire, c'est lié au rapport père et fils.
Tu voudrais être un homme, tu n'es même pas un ours.
Moi, j'ai vécu la même chose. Je suis arrivé en France avec ma femme italienne. Notre enfant, ils ont grandi en France avec une école complètement différente de la nôtre, qu'ils parlent français avec une autre langue. Mm-hmm. Et on l'a vu changer à notre yeux. Qu'est-ce que c'est ça? On a essayé de lui donner des racines italiennes, mélanger les choses. C'est des problématiques qui sont très universelles, mais sont très contemporaines.
Votre petit ourson est devenu français, quoi, à moitié.
Oui, moitié français, moitié italien. Quand il va en Italie, il appelle les Français. Quand il est en France, c'est l'italien. Mais c'est surtout nous, comment on a. Qu'est-ce qu'on lui parle de notre histoire, de notre tradition? Eux, est-ce qu'ils comprennent quelque chose? Tu vois, c'est déjà des conflits naturels, mais ce n'est pas des conflits, c'est le développement naturel des choses, de la complexité de la vie.
Quels sont pour vous, Lorenzo Mattotti, les ingrédients indispensables d'un très bon livre pour enfants? L'humour, la poésie, les surprises et un large vocabulaire?
Oui, je ne suis pas un grand spécialiste de la littérature. Moi, je vais toujours chez des classiques. Je fais Pinocchio, je fais d'autres choses. Et j'ai toujours peur d'inventer des nouvelles histoires pour la jeunesse. Parce que je ne pense jamais en termes pédagogiques quand je fais une histoire. Mais et alors, je pense toujours à ce que ça me plaisait, moi, ou la côté enfance de mon identité, ou quand j'étais petit, qu'est-ce que j'aimais.
En tant que lecteur, oui.
Oui, comme lecteur.
Qu'est-ce que vous aimiez petit?
Bah, je mettais tout. En fait, j'aimais tout. Mais ils sont restés dans ma tête les choses, l'amour pour les mystères. Qu'il y a quelque chose que moi je dois imaginer, que je devais imaginer, quelque chose qui peut-être me faisait m'inquiéter, me faisait un peu peur, mais que je ne connaissais pas vraiment. J'ai jamais trop aimé les histoires un peu très légères, très gentilles. Cette gentillesse, que ça va très bien, raconter les choses avec gentillesse, c'est bien, mais quand il parle des choses toujours très gentilles, avec un dessin très gentil, très décrit.
Sans aspérité, quoi.
Ça qui laisse pas la possibilité de s'imaginer autre chose. Il y a un très grand dessinateur, que c'est Roberto Innocenti, qui c'est exactement l'opposé de moi. Il a fait un Pinocchio extraordinaire, magnifique. Mais alors lui, il est super précis. Toutes les maisons, ils ont tous les petits cailloux autour. Il a fait un village toscan parfait, très précis, très descriptif et tout ça. Mais il est très inquiétant aussi. Il travaille beaucoup avec les lumières. Les lumières, les couleurs, les ombres, ce que tu ne vois pas. Tout ça. Et ça, je crois que c'est un peu la clé pour moi. D'une image, si elle est fascinante. Et je crois que de quand j'étais enfant, peut-être, j'adorais aller chercher la Divine Comédie de Doré. Gustave Doré, c'est extraordinaire parce qu'il laisse toujours quelque chose à l'imaginaire. Down in the green hay, where
monkey and bear usually lay. Nova Book Box, Nova te masse la tête avec des mots très doux. Said someone come quick, the horses got loose, got grass sick. They'll founder, faint, they'll die. What is now known by the sorrel and the roan, by the chestnut and the bay and the gelding gray. It is stay by the gate that you are given. And remain in your place for your season. And had the overfit it, but listen to the high fence for sense wisdom. Did you hear that bear said, monkey, we'll get out of here fair and square. They left the gate open wide. So, my bride, here is my hand. Your paw, try and understand my plan, Ursula. My heart is a furnace, full of love that's just an earnest. Now
Now you know that we must unlearn this allegiance to a life of service and no longer answer to that heartless haymonger nor be his accomplice. For sure it him with artless horse thing, but Ursula, we've got to eat something and learn not keep while still within the borders of the land that men has girded all double bolted and tight fisted until we reach the open country, steeped in milk and honey. Will you keep your fancy clothes on for me? Can you bear a little longer to wear that leash, my love? I swear by the air I breathe, sooner or later you'll bear your teeth. But for now, just dance, darling. Come on, will you dance, my darling? Darling, there's a place for us. Can we go before I turn to dust? Oh, my darling, there's a place for us. Oh, darling, come on, will you dance, my darling? Oh, the hills are groaning with excess, like a table ceaselessly being said. Oh, my darling, we will get there yet.
Le singe et l'ours. Monkey and Bear, cette fable délicatement marxiste sur l'origine de la constellation de la Grande Ourse, signée en 2006 par la harpiste et chanteuse californienne Joanna Newsom. Le morceau complet dure 10 minutes, ce n'était que le début. Poursuivons, si vous le voulez bien, cet entretien avec le dessinateur italien Lorenzo Mattotti, à l'occasion de la sortie le 9 octobre de son adaptation si réussie du classique pour enfants de Dino Buzzati, la fameuse invasion de la Sicile par les ours.
Nova Book Box, le jukebox littéraire de Radio Nova.
Est-ce qu'il ne faut pas aussi, dans les bons livres pour enfants, ne pas s'interdire d'évoquer la mort, le deuil, la vieillesse, la maladie? C'est le cas dans le livre de Buzzati, c'est le cas dans votre film. Et c'est-à-dire qu'on ne s'interdit pas une version aseptisée, uniformisée
absolument.
De la vie. Quoi. C'est, s'il y a des malheurs, on les montre.
C'est ce que j'aimais aussi de cet livre qui parlait de la mort. Il y a les ours qui meurent. Et après, il devient fantôme. Et lui aussi, il meurt. C'est... Il parle de la vie et de la mort comme la réalité, mais il les parle d'une façon douce. Il les parle d'une façon affabulatoire. Il parle des mystères de la vie. C'est comme une fable. Ça fait partie de notre mythe. Il crée un mythe. Il crée une mythologie. Et ça, c'est très important. Il cache pas les choses, mais il crée une aura. C'est comme une aventure. Et c'est comme dire aux enfants, la vie, c'est une aventure. La mort, la vie et tout ça, ils font partie de cette aventure. On ne les cache pas, mais on lui donne une aura. Et que c'est très important, en fait. C'est les choses plus importantes de notre vie. Tu vois. Comment on est né, comment on va mourir, que les copines, les drames, les choses, c'est notre vie. Mais... il faut pas édulcorer, il faut lui savoir le raconter.
Lorenzo Mattotti, vous avez déclaré en substance le danger de cette société où on nous bombarde d'images en permanence, c'est que nos fantaisies, nos imaginaires personnels finissent par être aplatis. Car les images dont on nous abreuve sont standardisées. On rêve des mêmes choses, des mêmes personnages avec les mêmes gros yeux. Et c'est ainsi que les puissances de l'argent contrôlent notre imagination. Comment contourner ce problème?
Il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de recette. Je crois qu'il faudrait essayer de raconter le plus possible d'autres choses ou de façon différente. Bon, d'un côté, les producteurs doivent avoir le courage de risquer, prendre plus de risques. Prendre plus de risques, de raconter aussi des choses très personnelles, vues d'une façon très personnelle, que ça peut marcher ou ça ne peut pas marcher, mais il faut absolument donner notre vision des choses, parce que comme ça, notre enfant, il peut avoir, eux, la vision à eux, des choses. Et comme ça, enrichir son propre imaginaire pour penser à un futur...
singulier.
Et plus riche.
Alors cette phrase, à vous, que je viens de citer, elle m'a rappelé une autre phrase célèbre de Tommy Ungerer, l'auteur des Trois Brigands, à propos de la littérature jeunesse. Il faut traumatiser les enfants, sinon ils deviendront experts comptables. Dans le film, ouais, vous prêtez votre voix à un croque-mitaine capable de se métamorphoser en gigantesque chat rouge aux yeux jaunes, très très méchant et bien décidé à boulotter de l'ours à l'heure du déjeuner. Est-ce que je peux vous demander ce que vous pensez de cette citation de Tommy Ungerer, mais de me répondre avec cette voix terrible et dangereuse de croque-mitaine?
C'est une très bonne idée. C'est... Il faut faire peur aux enfants. Ouais.
Bon, ben, merci beaucoup. Je repense aussi au segment que vous avez fait pour le film collectif Peur du Noir et à l'enfant que vous étiez, où vous aviez peur parfois en lisant des livres sous vos couvertures quand vous étiez enfant. La peur, c'est aussi un élément essentiel de la littérature, la bonne littérature pour enfants.
Ben oui. Après, je ne sais pas s'il faut, il faut pas violenter les enfants. Mais lui raconter de la peur en faisant peur. Lui raconter du mystère en donnant lui du mystère. Tu vois, on ne peut pas raconter de la peur si on fait des dessins très gentils. Il faut qu'ils aient la possibilité de vivre des choses avec les livres. Ils ont de la chance. Ils ne sont pas des enfants jetés par les familles dans la rue qui doivent apprendre la dureté de la vie. Ils ne sont pas Hansel et Gretel, ils sont jetés dans la forêt. Mais ils peuvent vivre. Il peut imaginer une sorte de peur qu'on peut avoir quand on est dans la forêt, quand on est dans la rue et tout ça. Et alors, il peut commencer à comprendre qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il y a dans la vie. Et c'est découvrir des choses. Et qu'est-ce qu'il y a de plus facile de regarder des images dans un livre et quand tu as peur, tu les fermes et tu les vois pas. Après, si tu les rêves... C'est bien que tu les rêves, ça veut dire qu'il est entré dans ton inconscience, ça veut dire que tu as absorbé des choses. Moi, j'avais tellement de peur quand j'étais petit, mais jamais. Il y avait un côté que j'ai aimé.
Vous avez peur de quoi?
Ah, de tous. Moi, j'avais peur de tout. Mais j'allais voir tous les films de l'horreur, de Frankenstein, de l'homme-garou, tout ça. Je voulais les voir et après, je savais que je les rêvais. Mais... C'est important aussi de les rêver, parce que ça veut dire qu'ils sont entre nous, qu'on comprend, on les apprend, on les affronte et on les digère, tu vois. Il ne faut pas cacher les choses, il ne faut pas cacher. Mais il ne faut pas les violenter. Ça, j'aime pas le sadisme.
Non.
J'aime pas les sadismes en soi-même.
La violence gratuite aussi, c'est gratuite pour les enfants en plus.
C'est pour ça. En général, c'est Gretel que j'ai fait très noir. C'est parce que les noirs, ils donnent le mystère, ils donnent la possibilité d'imaginer des choses. Ils ouvrent des fenêtres sombres puisque les enfants ils puissent entrer dans cet monde.
Parmi les fenêtres sombres que vous avez ouvertes, il y a les dessins que vous avez réalisés pour le livre album inspiré du disque de Laurie The Raven, qui lui-même est tiré des écrits d'Edgar Allan Poe. Est-ce qu'il y a une chanson en particulier sur ce disque que vous aimez, que nous pourrions écouter maintenant?
Moi, c'est une chanson très étrange pour Laurie, parce qu'elle est très douce. Non, lui, il a fait beaucoup de chansons douces. Mais là, il parle de l'ange protecteur, s'appelle mon ange gardien. Oui, je crois. Et les textes sont magnifiques. Il parle tout le temps qu'il a eu la possibilité de tomber dans l'abîme, de passer la frontière, tout ça. Mais il y a toujours eu un ange derrière lui qui l'a... C'est comme s'il a gardé tout ça. Et je suis très content aussi du dessin que j'ai fait sous cette...
Que vous pouvez décrire, le dessin qui accompagnait cette chanson?
Oui, c'est, C'est un dessin qui a un côté un peu très classique, des peintures italiennes un peu anciennes. C'est un homme assis à sa siège. Il y a comme un miroir très noir en face de lui. Et dans la fenêtre, il y a un ange. Oui, c'est un ange. C'est une présence qui lui touche la tête, avec sa tête. Mais c'est très graphiquement que c'est très important comme il est fait. Et c'est comme si, oui, qui les protège, si tu veux.
Angel, keep him in my head. When I'm afraid and alone, I call him to my bed. I have a guardian angel who keeps bad things from me. The only way to ruin it would be for me not to trust me. The only way to ruin it would be for me not to trust me.
Toujours en compagnie de Lorenzo Mattotti, ce dessinateur italien qui adaptera le 9 octobre au cinéma la fameuse invasion de la Sicile par les ours de Dino Buzzati. Lorenzo, est-ce que vous connaissez ce livre? Je crois que la réponse est oui.
Ben oui.
Le voyage de G. Mastorna, ce scénario jamais tourné par Fellini, cette incroyable histoire qui aurait dû être son chef-d'œuvre, écrit avec la collaboration de Dino Buzzati. Alors pour nos auditeurs, je rappelle que c'est l'histoire de Giuseppe Mastorna, un violoncelliste qui meurt dans un accident d'avion à bord duquel il n'était pas prévu qu'il embarque, mais qui atterrit dans une ville limbe où règne un extraordinaire désordre spirituel, voire le même foutoir que sur Terre, c'est-à-dire un bordel typiquement félinien. Et une fois que les passagers ont bien compris qu'ils sont tous morts, à eux d'essayer de trouver leur voie vers l'inconnu en fonction de leurs convictions profondes ou fragiles. Federico Fellini écrivit ce script à 45 ans, en 1965, avec l'intention de le tourner immédiatement. Mais à la veille du tournage, il fut frappé d'un mal mystérieux, ce sont ses mots, qui faillit de peu lui coûter la vie. Un mage turinois, que le réalisateur écoutait beaucoup, délivra ce diagnostic. Il faut respecter le mystère de la mort. Et tout fut annulé. Toutes les séquences de ce scénario roman, de cette divine comédie laïque et humaniste, pourrait donner de merveilleux, bouleversants, homériques et grotesques moments de cinéma. est sans doute un monument du 7e art, baroque, métaphysique, fou. Question pour vous, Lorenzo Mattotti, est-ce que ça ne donnerait pas un incroyable, un magnifique film d'animation dessiné et réalisé par vous ?
Oui, ce serait bien, mais je crois que... Alors, d'abord, il faut dire qu'après Fellini, toute cette idée qu'il y avait dans les livres, je crois qu'il a semé dans tous ses films. Il a toujours dit, en fait, Le Voyage de Mastorno, c'est tous mes films. Après, c'est bien presque que je ne l'ai pas fait, parce que j'ai semé.
Il a eu des idées.
C'est devenu une mine, pour moi, d'idées et tout ça, que j'ai mis dans tous mes films après. Et je crois qu'il a fait exprès tout ça. Et de l'autre côté, je serais un peu embarrassé parce que Federico Fellini, à la fin de sa vie, il a collaboré avec Milo Manara. Il avait Voyage à Tulsa, que c'était un peu pris. Je crois que Fellini l'a fait faire beaucoup de choses pris par cette.
Dans ce texte-là.
Par cette. Et je serais un peu embarrassé en rapport à Manara et tout ça. Mais c'est vrai que ça aurait été extraordinaire. Moi, j'ai toujours été très frustré. J'étais très timide. Je n'ai jamais connu Fellini. Je l'ai regardé de loin comme un monument et tout ça. Ça m'a suffi de regarder ses films et lire ses livres. Mais c'est vrai, pourquoi pas un jour d'avoir le courage, je ne sais pas. Mais il y a tellement d'autres histoires. Aussi dans Buzzati, il y a beaucoup d'autres histoires qui sont fascinantes. Mais après, il faudrait que j'affronte peut-être mon voyage de Mastorno à moi. C'est-à-dire des idées, des histoires que j'ai dans la tête et je n'arrive pas vraiment à mettre sur les papiers pour... comme ça, pour peur, pour insouresse, pour feignanterie,
fainéantise.
Feignantie. Alors il faudrait peut-être...
Sur quoi travaillez-vous en ce moment ?
Rien.
C'est vrai ?
Oui, je veux respirer, je veux reprendre... En fait, je dessine de façon très libre. Je vais dans mon atelier, j'ouvre mes cahiers, je commence à dessiner de façon très libre. Ça me permet... De voir à quel stade je suis dans mon dessin, dans quelle idée j'ai. Et c'est le moment le plus plaisant pour moi, de faire sortir les idées, de se sentir libre, pas pour un projet, mais pour le plaisir de dessiner, de faire les choses.
Nova Book Box, parfois, une page suffit, quoi.
I want to know. I want to know. Vorrei sapere,
I want to know.
Vorrei sapere,
I want to know.
Come fa la gente a concepire di poter vivere nelle case d'oggi, in scatolati come le acciughe nascono i bimbi che han già le rughe. I want to know,
I want to know.
I want to know,
vorrei sapere.
I want to know,
vorrei sapere.
Perché la gente,
I want to know.
Non dice niente,
I want to know.
I Mr. Hyde, I Dr. Jekyll, i costruttori di questi orrori che senza un volto hanno le case dove la carie germoglia già.
I want to know.
J'aimerais savoir comment font les gens pour concevoir de pouvoir vivre dans les maisons d'aujourd'hui, mis en boîte comme des anchois, y naissent des bébés qui ont déjà des rides. Dit la chanson I Want to Know, l'un des langoureux hits du crooner italien Adriano Celentano, c'était en 1976. Il y a une chose que j'aimerais savoir, moi, Lorenzo Mattotti. Enfin, nous sommes deux à le vouloir. Il y a deux semaines, j'ai eu la joie de recevoir l'une de vos consoeurs, la dessinatrice américaine Emile Ferris, l'autrice de « Moi, ce que j'aime, c'est les monstres », fauve d'or du meilleur album de BD au Festival d'Angoulême 2019. Et Emile Ferris a une question à vous poser.
Ah oui, elle est très sympa, oui, j'aime beaucoup.
Having fallen in love, as you know I did with your series,
je suis littéralement tombée amoureuse, comme tu le sais, de ta série sur les rêves des femmes.
I was really touched with how
j'étais vraiment touchée par la manière
exactly you portrayed
tellement exact dont tu as fait
of strength and vulnerability
portrait de cette idée de vulnérabilité qui touche chacun de nous dans ses rêves.
You
et je me suis demandé comment toi
intuited or understood the dreams of women.
Tu as pu avoir cette intuition, comprendre les rêves des femmes. De quelle partie de toi-même est-ce que cette connaissance et cette compréhension est venue?
It's remarkable.
C'est remarquable.
Comment faites-vous pour être femme, Lorenzo Mattotti?
C'est difficile à dire. D'un côté, je crois que les mystères du dessin et de l'image, c'est comme la musique. Est-ce qu'il y a des musiciens qui font une musique féminine ou masculine? D'un côté, je crois qu'il faut aimer beaucoup les femmes, l'autre. Mais de façon très ouverte. Tu vois, moi, j'aime beaucoup les voir, regarder les femmes, penser à les pensées. Peut-être que je suis très mal à me relationner avec les mots et tout ça. Mais je crois qu'en regardant penser, regarder vivre et tout ça, je crois qu'on peut très bien projeter notre pensée sur les autres. C'est une sorte d'empathie artistique, je crois qu'il y a ça. On peut en certain moment rêver qu'on est des femmes, et qu'on vit les choses de ce côté-là, les mondes du rêve, c'est tellement ouvert, et c'est inquiétant parce que ça nous dérange, non? Tu te rêves, ah, j'étais une femme,
Mais ça vous est déjà arrivé?
C'est très dérangeant. Bah, oui, je crois oui. Je suis sûr, oui. C'est normal, je crois que c'est normal dans les rêves et tout ça. Mais je crois qu'il y a une sorte d'amour. Quand je dessine cette femme, cette fille, jeune fille qui rêve, j'essaie de l'aimer beaucoup. Quand je la dessine, je l'aime. En fait, quand on dessine, on aime. On aime les choses qu'on dessine. C'est toujours un acte d'amour, dessiner. Baldus disait que c'est une prière. Peindre, c'est comme faire une prière. Et de l'autre côté, je crois que quand on dessine, on aime. Aussi si on les déteste, on les déteste vraiment jusqu'au bout. On dirait, on aime les détester, on peut dessiner jusqu'au bout. Alors quand je dessine une fille qu'elle dorme, c'est comme si je suis là à la regarder, qu'elle dorme, tous ces petits mouvements des yeux, peut-être bouge la bouche, fait un petit truc comme ça, et qu'est-ce qu'il y a dedans, et je peux me mettre dedans, et après c'est le plaisir de dessiner, hein. c'est un peu comme dans une chambre, cet garçon et cette fille qui se touchent, ils se regardent, ils s'explorent, ils rigolent, ils font, c'était comme avoir une caméra sur son lit et de les regarder, aimer les regarder, tu vois. Et c'est comme ça qu'il sort les dessins. Il y a l'image qui prend la force. La force. Et c'est là qu'il y a comme. Les mystères, à la fin, ils touchent les yeux d'Émile Ferris, mes yeux, ils touchent. Les yeux d'une jeune fille, les touches d'un garçon. Il faut, si le garçon n'a pas peur de voir ces objets. Parce que parfois, il y a des préjugés que les hommes ne sont pas très intéressés à certains objets. Et alors là, il y a des préjugés. Mais si on commence à regarder les choses de façon complètement libre, de ne pas avoir la peur de la douceur, de ne pas avoir la peur. D'être doux.
On peut s'arrêter là-dessus. Ne pas avoir peur de la douceur. Merci beaucoup, Lorenzo Mazzotti. Merci, Lorenzo Mazzotti. Pour les fans, sachez que l'artiste expose les originaux et les esquisses de son film La fameuse invasion de la Sicile par les ours à l'Institut culturel italien 50 rue de Varennes, dans le 7e arrondissement de Paris, jusqu'au 25 octobre. L'émission de ce soir a été réalisée par Sullivan Clabot, avec l'aide de Tristan Guérin, programmation musicale Michael Liot. La semaine prochaine, je vous emmènerai en Provence, le temps d'un reportage, enregistré lors de la 21e édition du Festival des Correspondances de Manosque, où j'ai rencontré Hélène Gaudy, Alban Lefranc, Charlie Delvart, Sylvain Prudhomme, Cécile Coulon ou encore Laure Limongi, pour leur demander de nous raconter leur vision du 21e siècle. Ce qu'il en reste, est-ce que nous sommes tous foutus ou y a-t-il encore un peu d'espoir? Bon après-midi et rendez-vous dimanche prochain à midi pour de nouvelles aventures littéraires. Retournez dans vos montagnes, dit lentement Léonce. Quittez cette ville où vous n'avez trouvé que la richesse et non la paix de l'âme. Quittez ces vêtements ridicules, jetez l'or au loin, jetez les canons, les fusils et toutes les autres diableries que vous avez apprises des hommes. Redevenez ce que vous étiez auparavant, que l'on vivait heureux dans ces grottes solitaires ouvertes à tous les vents, tellement plus heureux que dans ces palais mélancoliques remplis de cafards et de poussière. Les champignons des forêts et le miel sauvage vous paraîtront à nouveau les plus exquis des mets. Oh ! Retournez boire l'eau pure des sources au lieu de ce vin qui vous ruine la santé. Ce sera dur de se détacher de tant de belles choses, je le sais, mais après, vous vous sentirez mieux et vous deviendrez même plus beau, car nous avons engraissé, mes amis. Il faut le dire, nous avons pris du ventre.
Nova Book Box, le jukebox littéraire de Radio Nova.